Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors avant toute chose, je voulais juste faire une petite info, comme c'est l'été bientôt, une seule petite info et après je vous parle de cette émission un peu spéciale. Pour vous rappeler que le Festival du Conte aura lieu à Serrat en Ariège du 27 juillet au 30 juillet, et puis ce sont les 10 ans donc de ce festival, et pour l'occasion, Henri Gougaud, célèbre conteur, sera présent donc à Serrat le 29 juillet, et puis vous y trouverez bien sûr également Olivier de Robert, qui était venu nous parler il y a quelques semaines de son livre « Les croix de la honte » aux éditions TME. Donc voilà, un festival de contes du 27 au 30 juillet.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitoup. Alors comme je vous le disais, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, c'est la dernière de la saison déjà, voilà, je reprendrai, Page à Page reprendra sur les ondes de Radio Occitanie le jeudi 8 septembre, et spéciale aussi parce que, et surtout parce que cette émission est dédiée à un auteur parti bien trop tôt, et qui laisse un grand vide parmi tous ceux qui l'ont connu. Il s'agit de Denis Ségur, je vous en avais parlé la semaine dernière notamment. Et voilà, Denis, ce fier Gascon au grand cœur, plein d'humour, de gentillesse et de joie de vivre, et qui écrivait comme il était, avec panache et simplicité. Alors pour m'accompagner dans cette émission spéciale, je me suis entourée de deux de ses amis qui ont eu la gentillesse d'accepter mon invitation et à qui je dis chaleureusement merci. Alors tout d'abord Sandrine Foller, qui est artiste, peintre, sculptrice à Toulouse et qui est une amie de Denis. Bonjour Sandrine.
Bonjour Claire.
Et puis ainsi que Gérard Lapagesse, auteur notamment jeunesse, puisque pour son scooter d'enfer, il était venu nous en parler il y a quelques temps ici à Page, et qui lui aussi est un ami de Denis. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors tous les deux, voilà, m'ont été d'ailleurs présentés par Denis, Sandrine d'abord, hein, puisqu'un jour Denis m'a dit « Claire, figure-toi que j'ai posé pour une peintre toulousaine qui cherche des modèles pour une expo de 365 portraits de gens ». Vas-y, l'expérience est chouette et la peintre est sympa. Alors c'est comme ça que j'ai connu Sandrine quand j'ai été dans son atelier pour poser, et Denis avait bien raison, l'expérience était très enrichissante et la rencontre avec l'artiste très sympathique, un vrai feeling. Et puis Gérard, lui aussi, m'a été présenté par Denis. Il m'avait dit en début d'année, de cette année, hein, 2011, « J'ai un ami qui écrit et qui va publier au Griffon Bleu un livre jeunesse. Ça pourrait t'intéresser. Il est très sympa. Tu verras. Je te donne ses coordonnées et tu vois avec lui. » Et effectivement, voilà, j'ai vu avec Gérard et nous avons fait une émission sur Radio Occitanie il y a quelques mois. Et c'est vrai, là aussi, Denis avait raison. Tu es très sympathique, Gérard.
Ben écoute, si Denis le dit, il ne peut avoir
exactement
que raison.
Alors ce désir de partage est très fort chez Denis, hein, le désir de communiquer sa passion, d'écrire et de faire se rencontrer les gens qu'il apprécie. Alors je parle beaucoup, hein, mais bon, il y a tellement à dire sur Denis. Mais je vais quand même laisser un peu la parole à ses amis, à mes invités. D'abord, peut-être honneur aux dames, Gérard.
Bien entendu.
On va laisser la parole un petit peu à Sandrine, mm-hmm, pour que tu nous racontes un petit peu, eh bien, comment tu as, toi, rencontré Denis.
Alors c'est récent en fait, c'était il y a peut-être un an et demi, le temps passe si vite. Denis en fait avait entendu parler de mon projet, je travaillais à l'époque sur cette fameuse série de portraits, la série des gens, et c'était sur le thème des réseaux sociaux. Et en fait, Denis en avait entendu parler et donc il m'a contactée en disant voilà, j'aimerais bien me vivre cette aventure. Et donc on a pris rendez-vous. Et je me souviendrai toujours, puisque le but, en fait, c'est quand j'ouvre la porte de l'atelier, c'est d'être confrontée à quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas à quoi il ressemble. Et j'ouvre la porte et je vois deux hommes. Et là, je me dis, alors...
je vois double ou... oui.
J'ai dû voir double ce jour-là. Et en fait, il y avait des messieurs. Et là, je me dis, d'accord, donc c'est qui? C'est le très grand ou c'est le plus petit, donc Denis? Et je m'attendais vraiment pas à voir deux personnes. Et en fait, Denis me dit, là, le plus petit... un peu chauve, me dit, bah voilà, c'est moi, Denis Sigur, et en fait, je viens de croiser un copain, rue des Lois, et en fait, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de venir avec lui pour te le présenter. J'ai dit, d'accord, ok, super. Il se trouve que cet ami, c'est Pierre de Nicolas, qui ensuite a réalisé le fameux documentaire avec Denis, donc, pour Toulouse-Bissonnière.
Tout à fait.
Donc voilà, ça c'est Denis.
C'est ta première rencontre.
C'est ma première rencontre avec Denis.
Il avait son chapeau.
Il avait son chapeau.
Ah, il avait son chapeau.
Il avait son chapeau. Et puis c'était et puis voilà, ça c'est comme ça que j'ai rencontré Denis, dans le sens quelqu'un de lien, de généreux, qui partage. Et donc voilà, il saisissait les moments comme ça à vivre. Et donc voilà, c'était notre première rencontre. Et puis ensuite, s'en est suivi d'autres.
Et merci Sandrine pour cette première rencontre racontée avec simplicité. Et Gérard, toi tu le connais depuis plus longtemps ?
Alors on se connaît depuis une dizaine d'années. À l'époque, tout le monde le prenait pour Franck Leboeuf et il signait des autographes en veux-tu en voilà pour ne pas décevoir les gens. Donc c'est très drôle.
Ça, voilà, oui, c'est.
Et on s'est
tout Denis.
On s'est retrouvé dans une session de formation pour animateurs d'ateliers d'écriture. On a travaillé ensemble, on a rigolé toute la matinée.
Ça m'étonne pas.
J'ai dit que j'écrivais des polars et l'après-midi, il s'est pointé en me demandant une dédicace sur un bouquin qui n'était pas de moi, mais d'un de mes ennemis préférés sur la place de Toulouse.
Dont tu ne citeras pas le nom, mais que je devine.
Et donc, on a trouvé ça assez drôle. Et puis après, on s'est revus plusieurs fois. Pas assez souvent, hélas, puisque on pense toujours avoir beaucoup de temps devant soi, mais on était toujours en contact, soit par mail, soit par téléphone. De temps en temps, on se voyait, comme j'animais des ateliers à Pibrac, et que ça a duré 3 ans. Je passais chez lui de temps en temps le voir, sur le chemin du retour.
Ah, pour le petit café, pour discuter, pour papoter.
Pour déconner un petit peu, comme d'habitude, pour se raconter.
Pour les bonsaïs aussi, raconte-nous. Il avait une passion pour les bonsaïs.
Oui, je crois que ça lui est venu tardivement.
Oui, là, il y a quelques temps, il y a à peu près un an ou deux.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça.
Et la triste chose, c'est que Carole, son épouse, m'a légué une partie de la collection de bonsaïs.
Ah.
Et que je travaille sur des arbres que je lui avais offerts, sur lesquels il a travaillé pendant 2 ans et qui sont revenus chez moi depuis 2-3 mois, et ça me fait très très bizarre de travailler dessus, parce que bon, voilà, je reprends une succession.
Oui, en quelque sorte.
C'est une façon de... J'en ai sauvé un certain nombre, beaucoup étaient déjà très très mal partis quand je les ai récupérés, mais tout ce qui était sauvable a été sauvé, et donc je m'en occupe au quotidien.
Il faut les faire fructifier pour justement qu'ils soient toujours présents,
c'est un peu
ainsi que voilà, le souvenir qu'on garde de
c'est un peu
Denis
le but des bonsaïs, c'est de ne pas les laisser crever, donc je m'en occupe au moins autant que des miens, et... Bon, c'est pas une activité à plein temps, mais ça prend effectivement quelques heures par jour, et puis ça occupe.
Tout à fait. Alors, on peut parler peut-être un petit peu de ces livres avant de continuer cette émission. Alors, moi, personnellement, je l'avais rencontré au Salon de Montgiscard, un salon du livre, et où il présentait son premier recueil qui s'intitule « Petit traité de savoir-vivre à l'usage de ceux qui vont mourir ». Alors déjà, rien que le titre m'avait... aux éditions Edilivre. Donc rien que le titre m'avait déjà assez interpellée, c'est quand même pas banal comme titre. Et puis le personnage de suite, voilà, m'avait plu, grand sourire, sympathique, quand je lui avais dit « mais ça parle de quoi, un livre pareil ?» Et donc on avait plaisanté, il m'avait raconté, et puis bon, j'ai eu de suite l'impression, enfin pas l'impression, mais de voir sa générosité évidente, voilà, avec son grand sourire, son humour. Et donc ce premier recueil est donc plein d'humour, de suspense et puis aussi de mélancolie. Parfois, il est teinté d'un peu de mélancolie, d'absurdité aussi de certaines situations de la vie. Et c'est un recueil qui est en fait un recueil de nouvelles qui est tout plein, je dirais, d'envie de vivre intensément et immédiatement. Et donc, ce fut l'occasion d'une, eh bien, d'une émission sur Radio Occitanie, d'une première émission ensemble pour ce premier recueil. Et puis, le deuxième recueil, dès qu'il est sorti, bien sûr, il me l'a fait envoyer. Il m'a dit, voilà, Crise de foi, ça s'appelle. Donc, foi, F-O-I. Hein. Voilà, Crise de foi, chez le même éditeur, chez Edilivre. Et là, donc, avec en couverture une photo d'Antoine, un de ses mousquetaires, comme il aimait appeler ses garçons. Et où on retrouve donc dans ce recueil de nouvelles, eh bien, tout l'humour de Denis, son style alerte, et puis où l'ironie flirte avec l'absurdité, et puis où la foi donc, et le doute, comme il aimait rajouter, et donc le doute hein, aussi, puisque s'il y a foi, il y a forcément doute, et présente aussi. Et c'était d'ailleurs un thème cher au cœur de Denis, la foi. Gérard, Sandrine.
J'ai mis longtemps à réaliser qu'il était croyant à ce
oui,
point-là.
Oui, moi aussi, je ne le savais pas non plus.
Quelque chose dont il ne parlait jamais.
C'est vrai.
Mais
on sentait
une certaine culture religieuse dans ses textes et dans la façon dont il ironisait sur certains textes bibliques ou autres. C'était gentiment iconoclaste parfois, mais on sentait qu'il y avait une vraie culture religieuse derrière tout ça. C'est quand même à lui que je dois à la fois d'être allé à un mariage protestant et hélas un enterrement protestant. Et moi qui suis parfaitement athée, je me suis dit en sortant de là que si j'avais dû choisir une église, j'aurais certainement choisi le protestantisme, justement parce qu'on ne nous enquiquine pas, on ne nous bombarde pas avec des références divines et autres, etc. Il n'y a pas de tape à l'œil, rien du tout. Et j'ai un peu mieux compris l'harmonie qu'il y avait entre lui et sa foi. J'avais trouvé très drôle, oui, cette façon d'écrire, un peu classique par moment, et puis surtout, il maîtrisait très bien ce que j'appelle le tour du terrain. Je dis qu'écrire, c'est un peu comme l'atterrissage d'un avion sur un terrain. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'atterrissage, mais c'est les tours de terrain que fait le pilote
avant
de choisir son angle d'attaque. Et on sentait bien les tours de terrain. On sentait pas forcément venir la chute, mais on l'attendait. Et il avait une façon de faire un atterrissage assez humoristique à la fin et très, très souvent très, très inattendu.
Ah oui, tout à fait. Les chutes de ces nouvelles sont pas, quand on les lit, on s'y attend pas du tout déjà. Il y a vraiment un suspense.
C'est très,
mais alors,
très drôle.
On s'attend à quelque chose. Et c'est tout à fait le contraire, voilà.
Comme cette histoire d'une une femme qui parle de sa rencontre avec on ne sait pas qui elle est en fait, et on a l'impression que c'est une mère qui va rencontrer sa fille et que sa fille va lui apprendre qu'elle est enceinte. Et en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est la fille qui va rencontrer sa mère et la mère tardivement attend un moutard. Et c'est une chute absolument inattendue parce que on attend exactement l'inverse en fait. On attend quelque chose de très convenu.
Oui, tout à fait.
Et puis, à la dernière minute, hop, on se fait avoir.
Tu as lu les deux, Gérard, ces deux recueils?
Oui, alors j'ai eu une chance, moi, c'est que je les ai lus avant tout le monde, parce qu'au fur et à mesure qu'il les écrivait...
Bah, t'es un privilégié,
il me les envoyait par mail, et donc je lisais, et puis parfois, je lui mettais juste un petit commentaire en disant « Ah, c'est bien du Ségur, ça
!» Voilà, style Ségur, on va créer, le style Ségur.
Ah, voilà, il y avait une façon.
Il avait son style à lui, tout à fait.
De ne rien prendre trop au sérieux.
Exactement.
Oui.
Même la mort, hein, je dirais.
Il a été très pudique là-dessus.
Oui.
Je dois dire que je pensais qu'on avait encore quelques années devant nous, qui n'auraient pas été très drôles.
Oui.
On pensait avoir du temps. Et quand on s'est vu pour la dernière fois, c'était au mois de novembre. Nous sommes allés signer des bouquins dans un trou perdu du Gers. Et on a passé une journée. C'est lui qui m'a entraîné quasiment de force en me disant viens, c'est sympa, mais j'en ai rien à foutre. Il me dit mais si, viens, tu vas voir, on va bien se marrer. Effectivement, on a passé une très bonne journée. C'était quand même 2 heures de voiture aller, 2 heures de voiture retour. On avait le temps de se raconter des histoires. J'ai eu le temps de savoir qu'il était parfaitement heureux, parfaitement serein à ce moment-là. Il se doutait bien qu'il y avait une épée qui pendait quelque part au-dessus de sa tête.
Mais il avait confiance.
Il
avait une grande confiance.
Et puis une grande pudeur à parler de tout. On n'en a presque pas parlé d'ailleurs. Parce que
de l'optimisme aussi.
Je lui ai dit, on en parle si tu veux, mais si tu veux qu'on parle d'autre chose. Il m'a dit, d'accord, on va parler d'autre chose. Et toute la journée, on a essayé de parler d'autre chose.
Sandrine, quelques mots avant qu'on fasse une petite pause musicale. Toi
Les rendez-vous avec Denis, en fait, c'était des rendez-vous à l'atelier.
Oui. Dans ton univers, à toi,
d'artiste.
Dans mon
univers. Mais en fait, on avait des rendez-vous portraits, c'est-à-dire que j'ai réalisé 3 portraits de Denis. La première fois, c'était donc quand il est venu poser pour la série des gens. Le deuxième rendez-vous, en fait, c'était dans le cadre de l'émission.
Oui.
Et le troisième qui m'a le plus marqué, en fait, je dois le reconnaître, c'était en début d'année.
Donc, en début de cette année, donc.
Oui.
Ah oui, début 2011.
Oui,
ouais, d'accord.
Donc, il est venu à l'atelier. C'était... Il était, on a fait aussi des déjeuners, etc. Mais là, c'était nos rendez-vous portraits. Et donc, il a posé. Et à ce moment-là, comment dirais-je, c'était nos moments privilégiés aussi, de discussion. On parlait, avec Denis, on parlait vrai. On parlait des choses simples et vraies.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Et il avait toujours cette espèce d'humour décalé. Et puis, bon, là, ces derniers mois, ça dépendait aussi, c'était fluctuant par rapport à les moments où il allait bien physiquement, mm-hmm. où le corps tenait, et puis les moments où c'était plus difficile.
Fatigué, oui.
Voilà.
Mm-hmm.
Et là, c'était ces moments-là où ça allait. Donc, il était là, il était présent. Et donc c'était ce rendez-vous portrait, ce dernier portrait, en fait, on avait le projet. Il voulait que je fasse son portrait sculpture. Voilà.
D'accord.
C'était
une chouette idée. Ça.
C'était le dernier. C'était une des choses qu'il avait envie de faire. Et puis il avait plein de projets. Il avait des idées
pour un
livre.
Tout
il
à
avait.
Fait. Oui.
Voilà. Mmh. Il était. Il traçait sa route. C'est quelqu'un qui traçait sa route. Et donc voilà. Il y avait. C'était lié en fait à la peinture, à la matière. Et ça, c'est ça aussi qui nous liait, cette matière.
Cette matière. Alors, on va revenir bien sûr sur Denis dans quelques instants, mais bon, Denis, fier Gascon, hein, né à Agen, voilà, avec ses quatre mousquetaires, Cyrano de Bergerac, hein, c'était son atelier d'écriture, hein, Gérard.
Oui.
Voilà, donc on ne pouvait pas ne pas passer Roxane de Police.
C'est
et d'ailleurs,
Roxane.
Il aimait beaucoup Sting.
Il aimait Sting, c'est ce qu'il m'a expliqué quand on était dans ma voiture. Parler de ça. J'ai cité le nom, je ne sais plus pourquoi. Il m'a dit, ah, mais c'est ma grande idole.
Bon, donc, ben voilà. Donc, on sait qu'on lui fait plaisir en écoutant Roxane.
Those days are over. You don't have to say your bye.
Voilà, cette très belle chanson de Roxane pour notre Cyrano de Bergerac, hein, avec son grand chapeau. Hein, il avait toujours un grand chapeau, Denis. Hein, la première fois que je... Bon, pas dans le salon, mais quand je l'ai revu après, il avait... Voilà, parce qu'on buvait des cafés, voilà, on refaisait un peu le monde, on discutait après cette première rencontre au Salon du Livre de Montgiscard. Et il arrivait toujours avec son grand chapeau, lui qui est grand en plus, donc ça rajoutait encore de la grandeur. Et donc c'est l'écriture, voilà, on parlait d'écriture, donc il a fait plein de choses, hein, Denis. Il a fait des études de lettres modernes, hein, à Agen, et puis donc l'écriture, hein, quelque part, la littérature. Et puis après il y a eu un revirement dans son métier, enfin dans ses aspirations, et il est devenu moniteur sportif, hein, c'est ça, hein, Gérard?
Ça, c'est un aspect que je ne connaissais pas.
Ah, d'accord.
Non.
Ah, bah alors, je...
Mais il ne racontait pas tout. Hein. Ah, donc, on parlait essentiellement écriture.
Bon, bah, moi, je le suis, parce que quand j'ai fait l'émission avec lui, il fallait bien que j'aie de sa biographie, on va dire. Voilà.
Ça, je ne savais pas du tout.
Si. Et il a même fait un marathon de 1600 km Toulouse-Gibraltar.
Ça, je l'ignorais complètement.
Ah, voilà, ben, je suis contente d'apprendre.
Je devais trop parler, pas lui laisser assez de temps.
Mais non, c'est parce que, bon, moi, je lui avais posé plein de questions sur lui pour le connaître, et puis pour pouvoir en parler quand on a fait notre première émission ensemble. Et donc, après cette carrière, on va dire, sportive, il est revenu à l'écriture en devenant écrivain public, une profession qui, finalement... paraît tellement désuète, parce qu'avec tous les moyens maintenant qu'on a d'informatique, etc. Mais c'est écrivain public. Il était écrivain public.
C'est ce qu'il m'avait dit quand on s'est rencontrés. Ça m'avait surpris aussi.
Magnifique. Bah oui, ça m'avait surpris, moi aussi.
C'est un truc
médiéval. Bah oui, mais c'est magnifique, je trouve, ouais, comme métier.
Ouais.
Et donc, il faisait des ateliers d'écriture. Et puis, il aimait, il m'avait dit, voilà, partout là où je peux, dans les marchés, dans les salons, j'amène mes jolis papiers, mes jolis plumes, mon encre, et pour redonner envie d'écrire aux gens. Voilà, il aimait faire, par exemple, dans certains salons, d'ailleurs, par exemple, Place aux Nouvelles de Lozerte, qui a lieu chaque année au mois de septembre. Il avait d'ailleurs promis d'y être en septembre prochain à Jacques Griffaut, qui organise cette manifestation chaque année. Eh bien, il proposait d'envoyer sa propre carte postale, enfin, à soi-même, décorée avec du beau papier, des belles encres et tout. Et Jacques aimait beaucoup cet aspect de qualité. Calligraphie, comme tu dis, Gérard, un peu, voilà, tout à fait médiéval, hein, finalement.
C'est pour ça que je n'ai posé aucune question. Ça me paraissait tellement décalé que je n'ai... Donc, j'ai rien dit. Après, j'ai appris qu'il travaillait pour la Dépêche.
Aussi correspondant pour la Dépêche. Il couvrait tout ce qui était culturel, socioculturel.
Mais ça, il
pour
m'en prenait...
le sud-est ou le sud-ouest. Enfin, moi, j'ai du mal avec les...
De la zone de Cugnot, je sais pas où.
Voilà, alors Cugnot, je ne sais pas si c'est à l'ouest ou à l'est, les auditeurs me pardonneront.
Je sais y aller, mais c'est pas mal.
Bien, moi je ne sais même pas y aller, mais bon.
Ça doit être sud quelque chose.
Mais bon, c'est autour de Toulouse, n'est-ce pas?
Jolie petite ville, avec un vrai centre-ville, avec une vraie vie culturelle, c'est sympa.
Voilà, donc il était aussi correspondant donc local pour la Dépêche. Donc il était revenu avec tout ça, en étant écrivain public, en faisant donc ses ateliers d'écriture, et puis en étant donc correspondant local, il était revenu finalement à ses premières amours, l'écriture, hein, puisqu'il avait fait des études donc littéraires, hein, lettres modernes, hein, donc c'était vraiment sa passion, hein, sa passion d'écrire, puis cette passion aussi de partager, parce que ce que je voulais dire aussi, ces deux recueils, donc Petit traité de savoir vivre à l'usage de ceux qui vont mourir, et puis Crise de foi, tous les deux édités chez Eddy Livre, eh bien il avait commencé à les mettre en ligne pour qu'ils soient écoutés, pour qu'ils soient accessibles, ces recueils, à toutes les personnes, y compris aux malvoyants et aux non-voyants. Et donc, sur volume.fr, donc volume.fr, on peut écouter donc ce premier recueil, le petit traité. Et moi, je trouve ça, voilà, ça c'est tout Denis, ce désir de partage, ce désir de donner, de communiquer, ce grand cœur, cette générosité, hein, c'est... Moi, j'ai trouvé ça un très beau geste.
Il avait commencé la rédaction d'une sorte de roman en ligne aussi, que j'ai suivi
oui,
au début.
Coyote,
son blog.
Oui.
Alors, je ne sais pas s'il l'a terminé ou pas, je savais qu'il avait...
Ben, c'était quasi, pas quotidien, mais c'était assez régulier, donc je crois pas qu'il l'ait fini.
Non, il l'a pas terminé.
Non, il l'a pas terminé, hein, Sandrine.
Non, en fait, moi, je suivais justement les aventures du Coyote.
Ouais, tu aimais bien
Oui. Puis,
tu aimes bien, hein, d'ailleurs,
il
a... passé.
Bah, d'ailleurs, le blog existe toujours. Donc,
ah, d'accord, on se posait la question avec Gérard
tout
à l'heure.
Oui, je confirme, le blog existe toujours, donc vous pouvez...
On peut le donner
alors...
Ah, si je te pose une
Tu me poses une colle, parce que
et
c'est...
Et moi, je ne l'ai
mais
pas.
Mais par contre, si vous tapez blog Denis Ségur sur un site, sur un moniteur de recherche, vous allez tomber tout de suite. Denis Ségur, vous allez tomber tout de suite sur son blog.
Voilà, je crois aussi, oui.
Voilà, et par contre, il écrivait en fonction aussi des moments où il avait la pêche, etc. Mais j'aimais bien, en fait, l'idée que... Dans cette période si particulière de sa vie, il parlait d'un coyote. Enfin, et c'était l'histoire d'un petit garçon. Voilà, c'est juste pour vous donner l'envie d'aller découvrir ce fameux coyote.
L'histoire d'un petit garçon. Et oui, puis c'est on y retrouve toujours son style, le style Ségur. On va le baptiser comme ça. Son
il y a quelque
style,
chose d'assez parfois. Oui. Cruel.
Oui, un peu l'ironie aussi.
Il a une tournure où en fait les choses peuvent être présentées d'une manière assez joviale et presque légère. Et derrière cette légèreté, et ça c'est ce que, en tout cas au niveau de mon ressenti, il y a quelque chose d'une gravité. Et parfois quelque chose de parfois dur. Oui, parce qu'il est aussi conscient que parfois c'est aussi dur. Ça peut être léger et dur. Et je trouve que chez Denis, il y avait cette forme de gravité.
À la fois chez lui, à la fois dans ses écrits.
Et dans ses écrits
voilà,
aussi.
Voilà, on le ressentait.
Oui,
c'est comme je disais tout à l'heure, il écrivait comme il était.
Oui.
Hein, c'est, voilà, il écrit. Gérard, un petit mot encore, parce que malheureusement, le temps nous rattrape trop vite, toujours. Et puis on se quittera avec une chanson encore de Police.
Le petit mot, c'est toujours en rapport avec notre dernière rencontre, quand nous sommes allés dans le Gers.
Pour ce salon, pour signer.
Je lui ai expliqué que je n'avais pas de projet particulier, que je cherchais un sujet, mais que je le cherchais mollement, et que sans sujet, je n'allais pas écrire quoi que ce soit. Et à un moment, j'ai reçu un mail. Tiens, tu cherches un sujet. J'en ai un. Je n'aurai pas le temps de l'écrire. Je te le donne. Fais-en ce que tu peux, ou quelque chose comme ça. Et il m'a
donc
envoyé.
Il avait conscience quand même de
l'inévitable. Ah oui, il savait
qu'il
y avait quelque chose qui se préparait, même s'il n'en parlait pas, même s'il le niait en public ou presque. Enfin, que son attitude niait ça en public.
Oui.
Et donc il m'a dit, celui-là, je n'aurai pas le temps de l'écrire. Donc voilà, il m'a donné un sujet, ça avait l'air assez barré comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, oui, ça vaut peut-être le coup. Et puis il m'a relancé en me disant, attends, dépêche-toi, j'ai peut-être pas l'éternité devant moi, donc dépêche-toi d'écrire. Donc j'ai écrit pendant plusieurs semaines et j'ai envoyé les épisodes au fur et à mesure et ça avait l'air de bien l'amuser. Et ça m'amusait bien aussi parce que j'avais un public immédiat.
Oui, et qui te donnait ses commentaires.
Voilà, et puis un jour il a disparu et d'un seul coup là, il n'y a plus d'urgence à écrire l'histoire. Donc elle est en plan depuis 3 mois, elle attend que je la relise, que je retravaille, que je me remette dans l'ambiance. Mais j'avais trouvé ça assez sympa et ça m'avait fait une sale impression quand il m'a dit « j'aurais pas le temps de l'écrire ». On en avait parlé à mots couverts, mais comme je savais qu'il écoutait l'émission... Je n'avais pas raconté ça de la même manière, mais il m'avait expliqué que bon, le roman le tentait depuis longtemps et il savait que ça prenait beaucoup de temps et que le temps, il ne l'avait plus.
Mais il était très pudique hein, là-dessus, Denis, parce que moi, je l'avais vu la dernière fois, on avait mangé ensemble en janvier. Il m'avait dit, bon, on se revoit au beau jour pour manger sur une terrasse, ça sera mieux qu'à l'intérieur. On devait se revoir au mois de mars et puis... Il nous a faussé compagnie,
voilà. Avec panache.
Sandrine, tu voulais juste rajouter une petite chose avant Message in the Bottle de Police.
Oui, je suis tombée sur cette phrase. Moi ça m'a remué la tripe, et puis Denis avait fort bien remué la tripe, de petit traité de savoir-vivre à l'usage de ceux
recueil.
Qui vont mourir. Voilà.
Mm-hmm.
Et il y a cette phrase qui, je l'ai relue là, parce que voilà, je pensais à cette émission.
Oui, tout à fait.
Et il y a cette phrase qui m'a marquée. J'ai été éjectée de ma vie comme le voyageur d'un train à grande vitesse. Défenestré, mon souvenir gît en marge du quotidien, de leur quotidien.
Oui, effectivement. Ouais. C'est...
Il avait une très belle écriture.
Ouais.
C'était un fan de Voltaire, si je tenais à préciser.
Sting et Voltaire.
Entre
et de plein d'autres aussi,
il n'y a pas de contradiction.
Et Message in the Bottle, ça serait une façon de lui envoyer un
message. Oui, tout à fait. Pour lui dire que, de toute façon,
qu'il le recevra, même
oui,
si
mais
je,
pas, j'en ou... doute pas. Moi, j'en doute pas. Je crois très fort en cela et je sais qu'il l'entendra, ce message, et qu'il sait aussi qu'il sera toujours dans notre cœur. Voilà, de nous tous. Et
puis, il reste ses écrits.
Il reste ses écrits et puis son blog.
Il faudra peut-être réexpliquer. Aux amateurs, comment retrouver ces livres, parce que comme c'est
Edilivre, l'édition Edilivre, Je pense qu'en commandant dans n'importe quelle librairie, en demandant...
Ça doit pouvoir se faire comme ça.
Absolument. Voilà. Et puis aussi son livre audio.
Son livre audio sur volume.fr. Et puis n'hésitez pas à aller voir son blog en tapant « blog Denis Sigur ». Et merci à vous deux, Sandrine, Gérard.
Merci
de m'avoir accompagnée pour cette émission avec Denis aussi. Et puis on se quitte donc avec « Message in the Bottle ». Adicia, c'est à la rentrée.
Occitanie de Zours.